France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La mobilisation contre la réforme des retraites a connu hier une nette baisse. 187 000 personnes ont défilé partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. La CGT, elle, évoque le chiffre de 250 000 personnes, rien qu'à Paris. 25 000, répond le cabinet de comptage Occurrence. C'est tout de même beaucoup moins qu'il y a 7 jours. Les manifestants se disaient tout de même déterminés. Une nouvelle journée d'action est d'ailleurs déjà prévue au niveau national le 24 janvier, vendredi prochain, jour de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Succinctement, par ailleurs, la grève continue contre cette réforme, chez les avocats notamment et les cheminots plus timidement. À la SNCF, la direction prévoit un trafic quasi normal aujourd'hui. Selon le PDG Jean-Pierre Farandou, les pertes dues à la grève pourraient approcher le milliard d'euros à la SNCF. Jean-Pierre Farandou qui compte annoncer un plan d'économie le mois prochain sans suppression d'emplois sur le terrain, dit-il. Christophe Ruggia est placé sous contrôle judiciaire. Le cinéaste a été mis en examen hier pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime. Il est accusé par l'actrice Aden Haenel d'attouchement et de harcèlement quand elle était adolescente. Christophe Ruggia nie toujours les faits. Il a interdiction d'entrer en contact avec l'actrice. Et l'on apprend par ailleurs que les violences sexuelles ont été en forte hausse en 2019 en France, plus 12% selon les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Cela révèle surtout que les plaintes des victimes sont plus souvent prises en compte, dans les commissariats notamment. L'actualité à l'étranger et les sénateurs américains qui prêtent serment. Ils ont officiellement débuté hier le procès en destitution contre Donald Trump. Procès qui s'ouvrira réellement mardi prochain. Le président américain est accusé d'avoir demandé des informations à l'Ukraine pour compromettre son rival démocrate Joe Biden. Et puis notez qu'en Syrie, la province d'Idlib connaît à nouveau des bombardements de la part du régime syrien. Damas a relancé l'offensive contre les rebelles et les djihadistes. Près de 20 civils ils sont morts et des centaines de combattants également ces 24 dernières heures.
Hashtag quand le témoignage prend la parole.
Toutes les semaines, réagissez sur les réseaux sociaux sur ce qui change votre vie. Renoncer à l'avion pour la planète, sauvegarder le patrimoine, vivre le handicap au quotidien, témoigner et compléter des interviews engagées.
Hashtag, c'est dès lundi sur les réseaux sociaux, le vendredi dans les matins de France Culture à 7h24 et sur franceculture.fr.
Et si on changeait l'école ? France Info et Oui Demain vous invitent jeudi 23 janvier à la première édition des Forums Éducation. Avènement du numérique, apport des neurosciences, engouement pour les pédagogies alternatives, l'école fait sa révolution. Venez écouter et échanger avec ceux qui inventent déjà l'école de demain. Jeudi 23 janvier à 19h à la Maison de Radio France. Et si on changeait l'école ? Un événement France Info et Oui Demain. Réservation sur maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, l'heure de retrouver Toufik Hakem et de parler bande dessinée ce matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Réveil culturel à la radio ou en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci. Et vous le savez, tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, je reçois le scénariste Alain Hérol et le dessinateur Juanjo Guarnido qui viennent de publier une magnifique bande dessinée, une épopée picaresque, Les Indes Fourbes, aux éditions Delcourt. Coup de cœur partagé avec Olivier Delcroix du Figaroscope qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Corinne Amar à la coordination, Vincent Bouchard à la réalisation, et Delphine Baudet à la prise de son ce matin. Le Réveil culturel, c'est parti.
Le Réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
c'est l'histoire d'un aventurier sans foi ni loi, Don Pablos de Ségovie, un véritable escroc, une fripouille, mendiant, traître, très drôle quand la situation l'exige, complètement mythomane, en quête de fortune, et qui va atterrir en Amérique du Sud pour découvrir l'Eldorado. Comment on pouvait découvrir l'Eldorado à cette époque-là? Il raconte donc sa fabuleuse épopée de l'ancien au nouveau monde, en mentant comme un arracheur de dents de l'Espagne du XVIIe siècle, en 160 pages, au très grand format. Le dessinateur de la série Black Sad et le scénariste de la série de Cap et de Crow nous offre une bande dessinée époustouflante de par son histoire, de par son traitement graphique et aussi de son découpage très original. Bonjour Alain Hérol, bonjour Juanjo Guarnido. Alors, Les Indes Fourbes, c'est une bande dessinée qui est la suite d'un roman célèbre qui a marqué du moins la littérature espagnole. De quel roman s'agit-il ?
Bonjour. Ben, tout à fait, il s'agit de La vie du Buscón, qui est un grand classique et un des pièces maîtresses de la littérature picaresque du siècle d'or espagnol. C'est ouais. le 17e siècle, enfin le siècle d'or s'étend entre une partie du 16e et le 17e. C'est l'époque de Cervantes, c'est l'époque de Lope de Vega et notamment de Francisco de Quevedo, qui est l'auteur de ce roman picaresque, qui est c'est pas une nouvelle, mais c'est un petit roman, mais qui est d'une telle densité. Ça correspondait à un style que Quevedo arborait, qui s'appelait le conceptisme, qui est un style baroque, mais pas baroque sur la forme, mais sur le fond. Et ça donne un style d'une densité de sens, au niveau du sens et du fond, des doubles sens des mots, de la profondeur des références, de la complexité des non-dits. C'est spectaculaire. Et d'ailleurs, Alain en sait quelque chose parce qu'il en a parlé.
Vous étiez au courant de l'existence de ce livre très important, de cet auteur qu'on compare à Molière en Espagne?
Je connaissais Quevedo de nom, mais j'avais pas lu ses œuvres et je connaissais un petit peu la littérature picaresque puisque j'avais lu notamment le Lazarillo de Tormes, qui est un autre classique de la littérature picaresque espagnole. Mais je connaissais pas le Buscón. C'est Juanjo qui me l'a fait découvrir. En fait, tout est parti d'une idée que j'avais eue et que j'avais proposée. Quand on a eu l'idée de collaborer ensemble, j'avais proposé de commettre un sacrilège. Mais je ne savais pas encore que ça en était un. J'avais proposé de raconter la suite des aventures de Don Quichotte. C'est une idée qui m'était venue lors d'un voyage en Amérique latine, en Équateur, où j'avais vu, chez la personne qui nous logeait, j'avais vu un tableau au mur qui représentait Don Quichotte. La personne peignait, il y avait peint un Don Quichotte. Et ce Don Quichotte équatorien m'avait suggéré l'idée de la suite des aventures du chevalier à la triste figure, mais dans l'altiplano, dans la forêt amazonienne. Quitte à le faire revivre. Pourquoi pas une uchronie, après ouais. tout. Mais l'idée n'a pas plu du tout à Juanjo.
Pourquoi?
Disons que Cervantes, lui-même, il a été victime de nombreux pastiches et contrefaçon à l'époque entre les deux parties de Don Quichotte. Il est paru plusieurs autres livres avec des aventures de Don Quichotte faites par d'autres auteurs, des faux Don Quichotte, des apocryphes, et notamment un qui a été célébrissime, El Quijote de Avellaneda, comme on le connaît, et qui a fait ce certain Avellaneda, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'était son nom, si c'était un autre auteur sous pseudonyme, mais en tout cas le gars, il s'est enrichi avec ça, il s'est fait un paquet de thunes sur le dos de Cervantes et Don Quichotte, donc du coup Don Quichotte,
c'est sacrilège, et
vous c'est un peu ça. Donc Cervantes, il a tué le personnage justement pour éviter que d'autres inconscients et profiteurs ignobles de notre genre fassent avec Don Quichotte ce qu'on a fait finalement avec Pablos.
Avec Pablos de Ségovie. Alors que racontait, avant d'arriver à la bande dessinée, à la suite que vous imaginez à ce roman, qu'est-ce qu'il racontait le roman à l'origine?
Finalement, c'est la vie d'un picaro, d'un survivant, c'est un gueux qui raconte sa vie à la première personne et à qui arrive moult misère, il passe souvent de maître en maître, il est toujours maltraité, il est toujours affamé, il essaye toujours d'améliorer sa condition sans jamais réussir.
Si je comprends bien, dans le roman, il ne quitte pas l'Espagne, vous allez le faire voyager.
Oui, parce que il l'annonce. Le livre se termine sur l'annonce de son voyage aux Amériques, décidé pasarme a Indias, comme il dit, pour chercher fortune, il a décidé de s'embarquer pour les Indes. Et ça ouvrait une porte. D'ailleurs, il annonce une deuxième partie que Quevedo n'a jamais écrite. Comme moi, j'ai lu le livre, j'avais lu des bribes pendant le lycée et j'adorais déjà. J'avais commencé à le lire, mais je l'avais pas fini. Je l'ai fini plus tard et quand je l'avais fini, je me dis ah. Chouette, il y a une deuxième partie, j'avais hâte de la lire et j'ai appris par la suite. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc j'avais pas façon de, je sais plus comment j'ai eu le renseignement, comme quoi, il n'y avait pas de deuxième partie. Et quand Alain a évoqué cette idée de possibilité d'aventure Don Quichotte dans les Indes, j'ai dit pas Don Quichotte, mais Pablo de Ségovie. Il part en fait dans les Indes à la fin du roman.
Alors, là, qu'est-ce que vous faites, Alain Hérol, vous plongez dans l'histoire.
Dans l'histoire et je lis cette histoire qui est à la fois truculente et très corrosive avec un humour noir, très acide, très noir.
C'est un trait du roman picaresque.
Ouais, mais celui de Quevedo est particulièrement noir. Et ce personnage se débat désespérément, le Pablos de Quevedo, se débat désespérément dans sa misérable condition en essayant de se hisser au-dessus de sa condition. Il n'y parvient jamais. Et il est toujours cantonné à ce qu'il retourne à ce qu'il est, c'est-à-dire un gueux, dans une société très hiérarchisée, très hermétique, où il est impossible d'accéder à un meilleur état.
Il n'y a pas d'ascenseur social. Non,
voilà, exactement. Et lui, ce qu'il fait, justement, quand il à la fin du roman, il décide de partir pour les Indes pour essayer de voir si son sort s'améliorerait en changeant de monde et de pays. Mais Quevedo conclut avec une certaine morale, puisqu'il dit celui qui ne change que de lieu et non de mœurs n'améliorera jamais sa condition. Donc notre Pablos, dans la suite, va peut-être réussir à améliorer sa condition en changeant de mœurs. Mais peut-être pas exactement de la façon dont l'entendait Quevedo.
Alors, on va expliquer quand même le titre de la bande dessinée. Je rappelle, édité par Delcourt, Les Indes Fourbes, au pluriel. Les Indes parce que c'est comme ça qu'on appelait l'Amérique, le nouveau continent à l'époque.
C'est Alain qui a décidé du titre, que j'ai trouvé très musical, musical déjà parce que ça évoque les Indes galantes de Ramon. Et rien que pour ça, moi, ça m'a touché, mais je trouvais que c'était une phrase, les Indes Fourbes. Je trouvais ça extraordinaire. Le hic, c'était que ça pouvait peut-être être mal compris par le public français.
Oui, parce qu'on pouvait s'attendre à découvrir une histoire de Maharaja, mais pas du tout. Et c'est en ça que déjà le titre en lui-même est fourbe. Mais il est sous-titré, ce titre. Le titre complet, ce n'est pas que les Indes fourbes.
À la manière des romans de la littérature de l'époque. Alain Hérol, vous vous êtes compliqué la tâche, parce que non seulement vous rentrez dans l'ambiance du roman, mais Vous suivez exactement la philosophie même de la construction de ce roman, parce que là, ce qu'on va avoir, c'est donc les aventures de ce Pablos de Ségovie, mais selon ce que lui veut bien nous raconter de ses aventures. Or, il est un peu mythomane.
Oui, parce que le genre picaresque, j'ai voulu respecter les canons du genre picaresque dans la façon de raconter, et dans le genre picaresque, il y a une constante, c'est un récit à la première personne, c'est un gueux qui raconte sa vie. Et donc, c'est le cas de notre héros.
Ouais, mais sauf que
c'est très subjectif, forcément.
Non seulement c'est subjectif, mais c'est un menteur, on peut le dire.
C'est un menteur impénitent et qui va essayer de balader son auditoire du début à la fin de l'album.
Et vous-même, les lecteurs.
Peut-être le lecteur, mais je crois qu'il a réussi même à nous entourlouper, nous, les auteurs.
Comment ça?
Il a fini par se rendre sympathique à nos yeux, alors que si on le regarde un petit peu, de manière un petit peu objective, ce type est une ordure.
Il nous a contagié son ambition, son énorme ambition impossible à assouvir, pas à ce point-là, mais au moins de doubler quasiment la pagination qu'on avait en tête au début du projet. Le livre a pris de l'ampleur au fur et à mesure qu'on élaborait l'histoire, qu'on la construisait, on a eu un peu cette contagion de l'ambition de Pablos. Le livre, il était ambitieux de départ, mais il est devenu beaucoup plus ambitieux.
C'est très drôle, très souvent très drôle, mais l'aventure est là, et puis surtout la découverte d'un monde. Donc je suppose que pour vous, Juanjo Guardino, ça devait être un plaisir que de représenter toute cette nature que le personnage principal va découvrir pour la première fois, parce que il va atterrir dans une communauté, on est dans l'Amazonie, il va être confronté à des paysages nouveaux que vous représentez. D'ailleurs, dans cette bande dessinée de 160 pages, il y a une séquence qui dure une dizaine de pages où il n'y a pas une seule parole. C'est-à-dire que la narration, c'est juste les décors, l'action.
Et ça encore, ça a un sens. Ça va dans le sens de ce récit, de cette réflexion mine de rien, du rôle de raconteur d'histoire. Ouais. Donc c'est un peu une mise en abîme de nous-mêmes en tant que raconteurs d'histoire, des auteurs de bande dessinée, des auteurs littéraires aussi, si on veut, par rapport à une certaine utilité stratégique, narrative, qu'on laisse découvrir au lecteur. Ce n'est pas banal.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Rusty scabbard now, the sand has taken seat.
En compagnie du dessinateur Juanjo Guarnido et du scénariste Alain Erol pour la bande dessinée Les Indes Fourbes aux éditions Delcourt, une bande dessinée qui se présente comme la suite d'un grand roman classique espagnol du XVIIe siècle et qui nous fait voyager des rues de Ségovie en Espagne jusqu'à l'Eldorado, le Nouveau-Mexique, de galère en galère. L'histoire d'un gueux qui est aussi le prince des entourloupes. Comment vous l'avez représenté justement Juanjo Guarnido, parce que, a priori, quand on voit cet homme qui pose comme dans une toile, on a envie de lui faire confiance.
Disons que c'est particulier parce qu'il y a un côté intrigant chez lui et dans cette idée de couverture, justement, où on voit que c'est quand même un gueux, il est mal rasé, il a les cheveux en pétard et il a une expression assez fourbe. Mais pourtant, il est habillé en noble.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un peu, excusez-moi d'évoquer, en faisant ma propre pub, la couve du premier Black Sabbath, mais c'était ouais. Ça le fait recherché. Qu'est-ce qu'il fait ce chat en train de fumer?
Vous avez des modèles? Vous travaillez avec des modèles?
Là, non. Enfin, il y a des modèles. J'ai exercé dans l'atelier d'Alex Alice, qui est un grand auteur et grand ami, la technique du portrait pendant un bon nombre de séances pour me préparer pour cette peinture, parce que c'est effectivement un tableau à l'huile. J'ai notamment engagé un ami qui est venu poser deux fois, qui a des traits maigres comme Pablo, c'est un peu...
En costume peu... d'époque.
Ouais.
C'est là qu'on retrouve aussi la démesure. Une peinture à l'huile pour la couverture d'un album, c'est quand même plutôt rare.
Mais c'est vrai que j'ai loué un costume d'époque, je l'ai mis sur un mannequin, j'ai fait venir encore un autre copain pour qu'il le porte. Et oui, il fallait.
Et vous étiez où à l'aérole? Est-ce que votre travail de scénariste s'arrête une fois que vous avez terminé l'histoire ou vous continuez à travailler autour de
On a échangé jusqu'au bout.
Ça vous a pris quelques années, hein, cette histoire.
Oui, ça a été très très long.
Très long.
Très long, c'est quoi? J'ai lu quelque part 6 ans, 7 ans, 10 ans.
Bien plus 10 ans.
Alors, 10 ans en tout, et 3 années et demie effectives de travail à plein temps, pour moi, après la conclusion, enfin, une version définitive du scénario.
Est-ce que votre traitement graphique renvoie aussi à quelque chose de très précis qui nous aurait échappé dans la peinture de l'époque?
Il y a beaucoup de références à la peinture d'époque et je me suis souvent basé sur des peintures d'époque pour rechercher des palettes de couleurs, non seulement comme documentation graphique pour voir tout ce que les tableaux d'époque peuvent nous apporter en termes des armes, des armures, des accoutrements, des coiffures, mais au-delà de ça. Il y avait une recherche de certaines palettes qui évoquaient l'époque, et pas que des tableaux espagnols, parce que les tableaux espagnols d'époque sont assez sombres en général. Il y a des tablettes plus gaies dans la peinture flamande et hollandaise. Et bon, de tout ça, ça donne quelque chose de forcément différent, parce que tous ces tableaux sont à l'huile, et moi je travaille à l'aquarelle. Forcément, l'approche technique n'est pas la même, mais bon, il y a une évocation, il y a une
tout ça donne une volonté. Tout ça donne une très belle bande dessinée, mais pourquoi vous êtes compliqué la tâche?
Parce que c'est moi, je le fais toujours. Quoi qu'on soit, qu'on me mette devant comme boulot, je vais avoir tendance à me compliquer la tâche de façon assez radicale et démesurée.
Voilà, l'auditeur attentif du Réveil culturel sait reconnaître l'arrivée d'Olivier Delcroix. C'est toujours le rire, le sourire d'Olivier Delcroix. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors cette bande, bah oui, très bien. Et on vous attendait avec deux pieds fermes parce que cette bande dessinée, vous étiez le premier à m'en parler en disant qu'il fallait surtout pas passer à côté. Les Indes Fourbes, je rappelle d'Alain Erol et de Guarnido.
De Juanjo Guarnido.
Juanjo Guarnido. On n'a pas encore parlé du découpage, de comment cette histoire d'un grand mythomane va avoir un vrai traitement graphique et épouse l'histoire et même le personnage. Comment on travaille le découpage d'une telle bande dessinée? Est-ce que c'est votre rôle, Juanjo Guarnido, ou est-ce que avec Alain Erol, tout était préparé, vous saviez très bien comment vous alliez vous faire perdre d'un côté, ouvrir des tiroirs, parce que c'est un récit à gigogne, c'est-à-dire on se perd, et ça fait partie du personnage, on a affaire à un mythomane.
Déjà, effectivement, le découpage, la construction générale du récit, c'est la labeur magnifique de Alain sur ce projet.
Tout est écrit, hein.
C'est écrit, mais faut dire que moi j'ai l'habitude d'avoir un scénario écrit avec les autres bandes dessinées que j'ai fait, sauf que Alain en général travaille avec ses autres dessinateurs en faisant lui-même un découpage très précis. Donc du coup, il a fallu s'adapter, il a fallu que chacun fasse un pas vers l'autre et qu'on trouve une façon de travailler différente pour ce livre-là.
Surtout qu'il demandait beaucoup de précision, parce que justement il y a beaucoup de faux semblants dans le récit, beaucoup de sauts dans le temps, des pages qui se répondent en miroir, en écho, et qui demandent une rigueur terrible dans la
d'horlogerie.
D'horlogerie, oui.
Olivier Delcroix. Alors justement, on vous attendait pour nous parler des Indes Fourbes.
Mais en fait, non, effectivement, moi, ce que je remarque d'abord, c'est que du point de vue de l'intrigue, on est sur une fusion réussie entre le polar et le film de Capdépée. C'est-à-dire qu'en fait, on est entre Usual Suspect et L'homme qui voulut être roi de John Huston. Et effectivement, quand on parle d'horlogerie de précision, il s'agit de mettre en place une arnaque moderne, donc un récit qui va être capable de captiver l'auditoire du troisième millénaire, avec une bande dessinée avec un tempo incroyable. Moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup bluffé. C'est magistral. Et en même temps, rendre hommage à toute l'hispanité, on pourrait presque dire, de Juanjo Guarnido. Et donc, en suivant le personnage du Buscón, en fait, ce personnage qui cache son jeu pour mieux le révéler à la fin, on est, mais alors, mené en bateau de A à Z sur 160 pages. C'est bluffant. Il y a tout. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, vous avez un personnage qui va, quelque part, arriver avec cette carte au trésor, avec cette promesse d'aventure. Je vous dis, quand c'est John Huston, c'est John Huston. On est sur la carte au trésor, on est sur Eldorado, on va découvrir un trésor, on part avec lui, il embobine son monde, c'est incroyable.
Le lecteur en premier d'ailleurs.
Il nous bluffe. Là notamment, je me souviens avoir discuté d'une planche en fait, où on a deux personnages qui sont diamétralement opposés, dont on raconte l'histoire. je ne vais pas divulgâcher, mais en réalité, c'est...
Divulgâcher, pas mal. Hein, je vous la piquerai, celle-là.
Elle est rigolote. Ouais. Hein. Mais voilà, je ne vais pas spoiler pour parler anglais.
Voilà, pour parler comme tous les Français anglais.
Mais en fait, c'est quand même une trouvaille scénaristique incroyable qui nous donne l'impression d'assister à finalement à deux personnages qui s'éloignent alors que c'est le même. Et c'est brillantissime.
Et à la fin, on a qu'une seule envie, c'est de retrouver le livre.
Et après, on relit les 160 pages en disant « Ah oui, j'avais rien compris, ils m'ont mené en bateau ».
Et pour le dessin, comment définiriez-vous votre dessin ? On n'est pas dans le style réalisme, mais on n'est pas loin.
Mais c'est le style qui naturellement sort de moi quand je dessine en liberté. Parce que je n'ai... Voilà, c'est
dessiner
c'est
en liberté,
naturel.
C'est-à-dire dessiner en dehors de Marvel et de Disney, vous.
Par exemple, ouais. Parce que chez Disney, vous avez des paramètres, ouais. Pour Marvel
et vous
aussi.
Avez beaucoup travaillé pour l'un et pour l'autre.
Pas beaucoup pour Marvel, mais un petit peu pour l'édition espagnole, beaucoup pour Disney, évidemment. Mais bon, finalement, c'est un registre qui est celui qui me convient, qui est assez similaire à celui d'une bonne partie des films Disney classiques. C'est un style semi-réaliste. C'est réaliste, mais avec une pointe de caricature, voire un degré de caricature chez les personnages, qui est variable selon le personnage et selon les situations. C'est le créneau dans lequel je me trouve... le plus à l'aise, parce que c'est confortable pour moi, et c'est là que je m'exprime bien, donc je me suis fait plaisir. Sur Black Sabbath, c'est exactement le même, ou quasiment le même registre, sauf que en animalier. Et ici, c'est avec des personnages humains, mais alors, voilà, le créneau est le même.
Quand le spécialiste des animaux se met à dessiner des humains, ça passe comment?
Je suis pas spécialiste des animaux, mais si une partie du public me considère que j'en suis un, c'est parce qu'ils connaissent de moi essentiellement Black Sabbath. Mais ouais.
Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire?
S'il y a une morale, c'est une morale en creux. Oui. C'est plutôt c'est l'exemple contraire de ce qu'il faut faire qui est raconté.
Mais est-ce que vous étiez dans une bulle, ou est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité, ou tout ce qui s'est passé dans votre vie, pouvait s'exprimer à travers cette histoire?
Quand on fait une fiction, elle se nourrit à diverses sources, y compris au réel. Et ce type de fiction-là, il y a toujours une part de satire, a fortiori dans le genre picaresque dont elle fait partie. Il y a une part de satire, donc on peut retrouver évidemment des accents satiriques qui parlent de réalités du XVIIe siècle qui sont hélas toujours d'actualité.
C'est vous parlez des fake news ou pas seulement?
Alors, ce qui est amusant, c'est quand on a eu les premières idées, que les premières ébauches du scénario ont été posées. On n'était pas encore dans cette ère de post-vérité dans laquelle on est rentré de plein pied.
Ouais, mais là,
ça se posait pas encore comme ça. Mais il y avait, par contre, l'idée du mensonge comme fil conducteur de l'histoire était déjà bel et bien là. Et le temps de finir l'album, on avait changé d'époque et on était rentré dans cette ère de fake news, de post-vérité, où il faut savoir discerner le vrai du faux, où l'importance de la vérité elle-même est remise en question. Et là, on a justement un personnage qui ment et qui raconte une histoire. On parle beaucoup de storytelling au sujet de la politique, au sujet de tout un tas de choses qui ne devraient pas être racontées de manière divertissante, mais juste factuelle. Et là, on a justement ce personnage qui utilise le storytelling. C'est un storyteller, un raconteur d'histoire, et il va utiliser sa capacité de raconteur d'histoire pour amener les gens là où il veut.
Les Intfourbes aux éditions Delcourt. On est très content de vous avoir eu avant le Festival d'Angoulême et avant son palmarès. Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui. Merci beaucoup Juanjo Guarnido et merci beaucoup Alain Erol.
Merci à vous.
Le Réveil culturel de Toufi Kakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et une fois par mois, Olivier Delcroix du Figaroscope et notre chroniqueur. Et aujourd'hui, vous venez avec le dernier numéro du Figaroscope. Paris sur Seine, ça veut dire quoi ça?
Paris sur Seine, mais disons que c'est après les fêtes, donc on est plutôt sur Paris sur Seine, dans le fracas quotidien d'un Paris chaotique. Après les fêtes et les excès en tout genre, finalement, essayons de retrouver.
Pour vous, hein.
Essayons de trouver un peu le côté zen, le côté retrouvons la méditation, le yoga, etc. Donc en fait, on s'est amusé à essayer de retrouver justement toutes ces adresses en ce moment qui nous permettent de retrouver notre quant à soi, maigrir après les fêtes, retrouver un petit peu de sérénité, d'un grand zen qui veut dire Zorro, et notamment par exemple pour rester dans la métaphore cavalière
des Indes fourbes,
nous avons accueilli dans nos pages une jeune femme qui est cavalière émérite et qui va nous parler, c'est Élodie Garamond, de l'itinéraire d'une parisienne zen pendant 24 heures, de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir. Voilà. Donc, toutes ces idées pour se recentrer sont dans le Figaroscope.
À très bientôt, Olivier Delcroix. De toute manière, on se croise au Festival d'Angoulême, bien sûr.
Ah, bah évidemment.
Bah, c'est la semaine prochaine.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture et le Théâtre de la Ville vous invitent à passer une journée avec trois pionniers de la danse au XXe siècle. Lecture d'extraits de Ma vie d'Isadora Duncan, Mémoire de la danse de Martha Graham et Le danseur et la danse de Merce Cunningham. Rendez-vous ce samedi de 15h à 17h30 à l'Espace Cardin à Paris. Programme complet et réservation 01 42 74 22 77 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La personnalité de Bernard Prenat a été expertisée hier lors de son procès. Un pervers narcissique qui n'accède pas à la souffrance de l'autre, y a-t-on entendu. Vous entendrez dans un instant la réaction des victimes qui assistent à l'audience. Nous interrogerons ensuite un historien sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Elle faiblit, mais elle change aussi de forme. Les rassemblements rappellent ceux des Gilets jaunes. Et puis nous nous pencherons dans cette édition sur une autre mobilisation, celle des agriculteurs en Allemagne. Ils refusent de nouvelles règles écologiques qui ne prennent pas en compte leurs problématiques, disent-ils. Le procès à Lyon de Bernard Prenat touche à sa fin. L'ancien prêtre répond d'agressions sexuelles sur d'anciens scouts, des mineurs, dans les années 80. Ce vendredi auront lieu les réquisitions et la plaidoirie de la défense pour un jugement qui sera mis ensuite en délibéré. Après trois journées intenses pendant lesquelles les experts psychiatriques ont décrit Bernard Prenat comme un pervers sexuel, notre correspondant Christophe Vincent a interrogé des victimes sur leurs ressentis. Voici son reportage.
Stéphane O'Haro a suivi tous les débats.
Je suis beaucoup plus détendu et beaucoup plus soulagé. J'ai commencé une reconstruction bien avant et avec tout ce qui m'arrivait, il fallait que je passe à autre chose. Donc je n'attendais pas grand-chose de lui et voilà.
Pour Vincent Berger, revoir Bernard Prenat a été une épreuve nécessaire.
Ça rouvre les cicatrices, ça fait mal. Pardon, c'est encore l'émotion. Je ne m'attendais pas à pleurer autant. Barbarin, ça m'intéresse moins, mais Prenat, ouais, c'est plus concret pour moi. Il faut quand même être là pour faire du bruit, on va dire, et puis vérifier qu'il aille bien là où il doit aller, dans la ronde publique, la prison ou ailleurs, le moment qu'il touche personne, c'est pas ça qui m'importe. Mais quand même.
Prenat assure qu'il n'a plus sévi après 91 et sa promesse au cardinal de Courtrai, Alexandre Aizé, à l'origine de l'instruction, en doute.
Il a été encore en présence d'enfants pendant des années. Nous avons mis près de 30 ans à parler. Écoutez, s'il y a des victimes récentes, peut-être dans 10 ans, certaines parleront. S'il y en a, en tout cas, je pense que la parole se libérera.
Tous se sont dit troublés de réentendre la voix intacte de leur agresseur.
Lui est désormais officiellement accusé d'agression sexuelle sur mineur. Christophe Ruggia a été mis en examen hier et placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé d'attouchement par l'actrice Adèle Haenel. Les cortèges étaient plus clairsemés hier contre la réforme des retraites. Pour la 6e journée nationale de mobilisation, il y avait, selon la CGT, 250 000 manifestants à Paris contre 370 000 jeudi dernier. Selon le ministère de l'Intérieur, il n'y avait que 23 000 manifestants dans les rues parisiennes. parisienne hier, 28 000, dit le cabinet Occurrence, et 187 000 partout en France. Une mobilisation qui fléchit donc et qui change peu à peu de visage. C'est l'analyse qu'en fait Stéphane Sirot, spécialiste des conflits sociaux, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Il est interrogé par Anne-Laure Jumet.
On a encore un noyau de grévistes, de manifestants qui reste malgré tout assez significatif et qui, d'une certaine manière, peut laisser penser aussi qu'il y aurait une espèce de gilet jaunisation de ce mouvement social. Je veux dire par là que, comme on l'avait vu avec les gilets jaunes il y a un an, où le gros de la vague s'était produit en novembre-décembre, il n'empêche qu'ensuite, pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois, des mobilisations avaient continué à se produire, même si elles étaient moins significatives en nombre. Et il me semble qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez ressemblant avec ce mouvement social, c'est-à-dire quelque chose qui, au fond, n'aurait presque jamais de fin, ou en tout cas qui mettrait un temps extrêmement long à véritablement s'achever. Je pense que ce mouvement est peut-être en train de se transformer, c'est-à-dire qu'il n'est plus en effet aussi massif qu'il a pu l'être, mais qu'en revanche, il va continuer d'y avoir des mobilisations, un noyau de mobilisation, voire des opérations coup de poing, comme on dit, ou alors des mobilisations ponctuelles qui vont rythmer l'avancée éventuelle du projet de loi du gouvernement. Donc je pense que c'est loin d'être fini, même si ça sera sans doute moins spectaculaire à l'avenir.
Et déjà l'intersyndicale annonce de nouvelles journées de mobilisation, mercredi, jeudi et vendredi prochain, date de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Ajoutons que cette grève à la SNCF pourrait finalement coûter 1 milliard d'euros selon le PDG de l'entreprise. Jean-Pierre Farandou a précisé hier qu'il comptait annoncer un plan d'économie au mois de février. Il précise toutefois qu'il ne souhaite pas pour autant supprimer d'emplois sur le terrain. Et c'est en plein conflit social et à 2 ans et demi de la prochaine élection présidentielle qu'hier, Marine Le Pen a fait acte de candidature. Une décision annoncée lors de ses vœux à la presse. La présidente du Rassemblement national explique porter un projet d'unité nationale. Annonce qui n'est pas une surprise puisque Marine Le Pen avait déjà dit son envie d'être candidate pour la troisième fois en octobre dernier. Mais en se déclarant si tôt, elle prend en fait date dans la perspective d'un futur duel avec Emmanuel Macron. C'est ce que nous explique le politologue Jérôme Sainte-Marie, président de la Société d'études et de conseils PollingVox.
Il n'y a pas de concurrence désormais pour elle au sein du Rassemblement national, puisque Marion Maréchal s'est éloignée du jeu politique et que personne d'autre n'est apparu. Qu'à gauche, il n'y a pas grand-chose non plus. Elle se constitue ainsi comme réceptacle de toutes les frustrations démocratiques, sociales et même presque émotionnelles que suscite le pouvoir en place. Et donc, elle souhaite que l'usure du pouvoir, qui atteint celui de Emmanuel Macron comme celui de n'importe quel autre, lui profite davantage. Elle a déjà rassemblé autour d'elle les catégories populaires. Il lui reste à convaincre les classes moyennes, les retraités, et j'imagine que c'est pour cela qu'elle se positionne actuellement. Les derniers sondages, par exemple celui de l'IFOP, montraient qu'au premier tour, elle était donnée à 28, 29, 30%. En d'autres termes, pour l'instant, elle n'a pas de concurrence dans l'opposition à Emmanuel Macron. Elle veut donc se constituer comme opposante principale à Macron, c'est comme ça que l'identifient déjà les Français, mais je pense qu'elle veut que ce soit durable, un peu comme François Mitterrand, de 1974 à 1980, avait tenu à rester l'opposant principal à Valéry Giscard d'Estaing.
C'était Jérôme Sainte-Marie, interrogé par Pierre Neveu. Et pendant que Marine Le Pen se déclarait candidate à la présidentielle, le président Emmanuel Macron présentait, lui, ses vœux aux armées hier. Sur la base aérienne d'Orléans, le chef de l'État a axé son discours sur l'engagement et la solidarité. Et il ne faut pas, a-t-il dit, oublier le rôle important que joue la France sur la scène internationale, Nathalie Hernandez.
La défense est et restera ma priorité, a réaffirmé le président de la République. L'année 2019 a été intense, 2020 le sera également avec la même ambition, car la France, a rappelé Emmanuel Macron, est présente sur de nombreux théâtres. Il faut compter avec elle, que ce soit dans les pays baltes, au sein de l'OTAN, en opération dans le Golfe ou encore au Moyen-Orient, où elle entend bien rester. Le porte-avions Charles de Gaulle va d'ailleurs retourner au large de la Syrie. Sans oublier dans sa lutte contre le terrorisme, le Sahel. Engagement et solidarité de la France, le sommet de Pau avec ses homologues africains en a été la preuve pour Emmanuel Macron.
À Pau, les États membres du Sahel ont réaffirmé leur volonté politique d'être défendus, protégés et de coopérer avec nos armées. Le cap est fixé.
Dans un an, la force Barkhane sera devenue une coalition militaire internationale, ce qu'elle est déjà en partie, grâce aux contributions de nos partenaires européens et américains.
Face à cet effort soutenu, le président de la République s'est également voulu rassurant sur le quotidien des soldats et sur leur retraite. Le métier des armes n'est pas un métier comme les autres. La prise en compte de ces spécificités sera tenue à assurer le chef de l'État.
Les frappes iraniennes le 8 janvier dernier ont en fait fait 11 blessés chez les Américains présents sur la base militaire irakienne qui avait été visée. Washington le reconnaît ce matin, contrairement donc à ce qu'avait annoncé le président Donald Trump au début du mois. Partons maintenant en Allemagne où les agriculteurs se préparent à un week-end de manifestations. Ils ont prévu notamment d'envahir Berlin pour protester contre l'infléchissement de la politique agricole qui entend se verdir outre-Rhin. Une loi en ce sens est présentée aujourd'hui au Bundesrat, la chambre basse du Parlement, et le monde agricole allemand maintient la pression, Marie-Pierre Véraud.
La dernière fois qu'ils ont investi la capitale, c'était en novembre. Des tracteurs portent de Brandebourg pour faire entendre l'inquiétude du monde paysan face au durcissement de la politique agricole. Le modèle allemand très intensif doit évoluer. Le gouvernement le répète depuis la présentation de son plan agriculture en septembre dernier, plan qui a déclenché une fronde inédite outre-Rhin. Moins de pesticides et d'engrais, interdiction du glyphosate à partir de 2024, création d'un label national sur le bien-être animal, réduction des cheptels pour lutter contre les gaz à effet de serre et normes plus strictes sur les nitrates. L'Allemagne a en effet été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour le niveau très élevé de pollution de ses nappes phréatiques. Mais les agriculteurs allemands demandent plus d'incitation et moins d'interdiction. Leur mobilisation marque aussi le malaise des campagnes, alors que fondent les revenus et que diminue le poids de l'agriculture dans l'économie du pays.
Le temps ce vendredi sera pluvieux sur toute la métropole avec de la neige en montagne selon Météo France. Ce matin, il fait 5 degrés à Besançon, 8 à Rennes, 9 degrés à Lille, 10 à Paris, Bordeaux et Lyon et 13 degrés dans la matinée à Marseille. 6h40, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Mounier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Alors forcément Jacques, cela ne vous avait pas échappé. Demain, c'est la 4e édition de la Nuit de la Lecture, avec partout en France, des lectures à voix haute ou en musique, des balades contées, des spectacles et des rencontres avec les auteurs.
Oui, oui Clara, et quel genre littéraire se prête mieux à la lecture publique que la poésie? C'est notamment dû à son goût du rythme, servi par la métrique syllabique et la rime. Dans une histoire naturelle du vers français, Jacques Reda évoque l'énergie engendrée par le rythme dans une sorte d'équilibre instable, de fixité et de mouvement, de régularité et de mobilité. Il souligne le sens inscrit dans son étymologie du mot « vers », à la fois l'unité métrique de la poésie et la direction induite par la préposition « vers » de même famille. Le poète s'en entretient aujourd'hui avec Nicolas Dutant dans l'hebdomadaire Marianne. Il revient notamment sur les vertus comparées de l'octosyllabe et du décasyllabe. Le premier, le plus ancien, reste proche de la prose dont il a été le véhicule dans nos premiers romans. C'est l'increvable routier de la poésie française. Mettez-le en marche et c'est comme un moulin à prière qui déroule la litanie, la complainte, la ritournelle, le boniment. Le deuxième, le décasyllabe de nos vers, le plus exigeant et dont la première apparition la plus mémorable eut lieu avec la chanson de Roland, lui apparaît comme un vers féodal. La césure traditionnelle partage les 10 syllabes en deux parts inégales, mais chacune de nombres pairs. J'y vois donc un preux du XIe siècle qui, en 4 pas, se met en garde, s'affermit et se fend, et fond sur l'adversaire avec les 6 suivantes. C'est le seul de nos vers qui soit à ce point cinématographique. Il n'aura pas survécu au temps des épopées, sauf à se plier à un adoucissement des mœurs, en essayant de mesurer des réalités plus difficilement mesurables comme les émois variables de l'âme et de l'amour dans les 5000 décasyllabes de la Délie de Maurice Sève. Des siècles plus tard, sur le versant abrupt et lumineux d'un cimetière marin, Paul Valéry allait le ressusciter. une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme, ô puissance salée. Le poète l'avait alors préféré dans un rebours ironique de l'histoire à l'alexandrin qu'il avait détrôné. Avec ses deux syllabes supplémentaires, celui-ci va imposer sa majesté oratoire dans le théâtre classique, comme chez Racine. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. L'autre élément essentiel du rythme poétique est la rime. Jacques Reda y voit le moment où le vers, ayant touché le point d'équilibre entre la mesure et l'élan, retourne au balancement. Dans le sonnet, par exemple, la rime lubrifie la mécanique en relançant le mouvement. Croisée, embrassée ou plate, elle remonte l'effet de bascule de l'horlogerie. Mais elle aussi connaît l'obsolescence moderne du vers. Verlaine, déjà, ne misait plus sur ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime, non sans avoir répondu au mot rime qui appelait ce dernier vers. C'est seulement quand la pensée se voit dans l'impossibilité de s'exprimer autrement que par le rythme qu'il y a poésie, affirmait Hölderlin, cité par Christian Prigent dans son journal poétique publié sous le titre « Point d'appui », ponctuation, scansion, métrique et syntaxe s'y emploient, je cite, « le rythme dédouble les pistes, écarte la phrase, connexion des unités de signification, du phrasé, connexion écolalique des unités syllabiques, dans la durée mesurée, prosodique, l'écart propage une onde. À quoi bon des poètes en temps de détresse ? La revue Zone Critique a invité écrivains et poètes à répondre à la question lancée par Hölderlin dans l'élégie Le pain et le vin. Gisèle Sapiro cite les vers d'Aragon sous l'occupation, mot marié, mot meurtri, rime où le crime crie. Comme Éluard l'écrit dans sa préface à l'honneur des poètes en 1943, la poésie mise au défi se regroupe, retrouve un sens précis à sa violence latente, crie, accuse, espère. Témoigner, c'est pour Jean Tardieu lâcher sa litanie d'heptasyllabes sur les assassins d'Oradour-sur-Glane. Oradour n'a plus de forme, Oradour femme ni homme, Oradour n'a plus d'enfant, Oradour n'a plus de feuilles. On peut rappeler ici une autre formule célèbre d'Hölderlin en écho à la question de la poésie en temps de détresse. Riche en mérite, mais poétiquement, sur terre, habite l'homme. Habiter poétiquement le monde, c'est-à-dire pas en prédateur ni en démolisseur. Dans son livre, Jacques Reda souligne que le rythme en poésie nous associe au mouvement de toute chose ou créature, de l'atome, au cosmos et retour. La stance poétique inscrit le sens de notre appartenance à un tout dans une réciprocité dansante. André Chénier célébrait en alexandrin la sourde et forte présence des éléments naturels. Heureux qui s'est aimé ce trouble auguste et grand, seul il rêve en silence à la voix du torrent. (Rire) 6h45 sur France Culture. C'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour, Jacques Meunier.
Bonjour. Ce matin, un pays d'Amérique latine où les manifestations répétées ne font plus depuis longtemps la une de nos journaux, et c'est le Nicaragua.
Oui, ce petit pays de 6,5 millions d'habitants dont on ne parle quasiment plus, alors qu'il était, Jacques Meunier, l'un des points chauds de la guerre froide, et alors que ça fait depuis maintenant près de 2 ans que des manifestations demandent le départ du président Daniel Ortega au pouvoir depuis 2007, après avoir déjà gouverné pendant 11 ans. Jusqu'en 1990, des manifestations très violemment réprimées, comme ça a été le cas au Chili à l'automne, dont on a davantage parlé. Les ONG parlent, évoquent pour le Nicaragua 328 morts, plus de 2000 blessés, des centaines de personnes incarcérées et plus de 80 000 en exil. Bonjour Gilles Bataillon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Le mouvement de contestation, donc, il a commencé en avril 2018. C'est une réforme de la sécurité sociale, des retraites, qui avait déclenché l'ire des manifestants. Réforme qui a été abrogée depuis. Alors qu'est-ce qui maintient les Nicaraguayens dans la rue ?
Ce qui les maintient, c'est deux choses. C'est tout d'abord l'exaspération devant la brutalité de la répression des journées d'avril où on a tiré sur la foule avec des tirs létaux tout de suite. C'est ensuite les tortures des gens qui ont été arrêtés, des viols, des chocs électriques. c'est aussi, au milieu de cette répression, une espèce de répression délinquante, c'est-à-dire des groupes paramilitaires qui vont arrêter des gens, qui les torturent, qui les rançonnent et qui ensuite les relâchent, et on commence à avoir toute une série de témoignages là-dessus. Et au-delà de ça, c'est, disons, un pouvoir qui a été réélu démocratiquement en 2006 et qui, à partir du moment où Ortega revient au pouvoir, noyote systématiquement toutes les institutions de contrôle du pays pour permettre une réélection à laquelle il n'a pas droit, car la Constitution interdit de faire plus de 2 mandats et 2 mandats successifs. Donc en 2011, il est réélu frauduleusement parce qu'il n'a pas le droit de se présenter, il bourre les urnes, et en 2016, il se fait réélire, cette fois-ci sans candidat d'opposition, et en bourrant à nouveau les urnes pour plus de sûreté. Et donc les gens sont exaspérés de ça, il y a une corruption impressionnante, c'est-à-dire que vous êtes un entrepreneur, vous voulez développer un hôtel au bord de la mer et vous devez payer des bakchich aux autorités, et il y a des réseaux de corruption qui remontent jusqu'à l'entourage tout proche du président.
Donc on dit que Daniel Ortega s'est accaparé tous les pouvoirs, et pourtant aujourd'hui les syndicats, certains syndicats, beaucoup de syndicats et aussi les entrepreneurs dont vous venez de parler se sont retournés contre lui apparemment, puisqu'ils sont aussi dans la rue, ils font partie de l'alliance d'opposition.
Ils ont constitué une alliance d'opposition. En fait, vous aviez 2 blocs. Un groupe qu'on appelle l'Alliance civique, où les entrepreneurs jouent un rôle très important, et l'unité bleue et blanche, qui était des gens venant de la société civile et où il y avait une rencontre extrêmement importante, c'est-à-dire d'abord des groupes féministes, les groupes d'étudiants, les paysans qui protestaient contre les expropriations pour le canal concédé aux Chinois.
Des petits paysans ou des grands propriétaires terriens?
Des petits et des moyens paysans. Et ensuite, ces gens-là... Ce qui est très intéressant, c'est que les leaders possibles de ce mouvement et les gens des figures les plus visibles, c'était un paysan, une représentante des commerçants du grand marché de Managua, mais aussi une femme qui vient de la société civile, qui a été liée à la Contra, qui a été dans une association de défense des droits de l'homme, qui est une femme extrêmement courageuse, qui est Violeta Granera des Sandinos. C'est aussi une leader du mouvement rénovateur sandiniste. Donc vous avez des gens venus de différents milieux qui disent « la dictature, c'est plus possible ».
En 2018, on parlait d'une insurrection civique qui n'a pas de chef, une coalition de personnes qui se disaient elles-mêmes auto-convoquées. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des leaders de l'opposition au Nicaragua ?
Alors, vous avez 2 choses. Vous avez à la fois ces jeunes autoconvoqués qui se reconnaissent et ne se reconnaissent pas dans ces leaders de la société civile, et vous avez toute une série de femmes, d'hommes, qui représentent ces multiples collectifs qui se sont réunis à plusieurs reprises pour essayer de trouver une stratégie pour faire sortir Ortega. Et en fait, là où le bât blesse, c'est qu'ils sont interdits de manifester, car ils sont immédiatement arrêtés et réprimés très brutalement, et que les patrons, le milieu entrepreneurial, parie plutôt sur des sanctions américaines contre la famille Ortega et contre le Nicaragua pour essayer de l'obliger à partir, mais eux ne veulent pas ou craignent beaucoup de descendre dans la rue, d'autant que Ortega, par exemple pour des gens qui ont des propriétés rurales importantes, il envoie des gens envahir leurs terres.
Les sanctions américaines, elles ont eu lieu déjà. Les États-Unis ont déjà condamné. Alors, c'est le fils, je crois, de Daniel Ortega qui ne peut plus utiliser ses dépôts aux États-Unis. Enfin, en tout cas, des sanctions qui visent la famille de Daniel Ortega ont déjà.
Elles ont commencé à être là, et on a sanctionné un certain nombre de hauts responsables sandinistes, soit mêlés à la répression des événements d'avril, soit pris dans des histoires de fraude patentées. Et en fait, les États-Unis pourraient faire mieux et viser plus de gens. Ils ont visé la femme d'Ortega, Rosario Murillo, qui est vice-présidente du Nicaragua. Ils ont visé un deuxième fils d'Ortega. Ils ont visé des hauts responsables sandinistes. Et disons, ça, c'est des pressions qui sont très importantes à l'encontre de la famille régnante.
La femme de Daniel Ortega, qui elle-même est devenue vice-présidente peu de temps après avoir demandé à sa fille de ne plus porter plainte contre Daniel Ortega pour viol. Je crois que des accusations de viol répétées avaient été formulées à l'encontre de Daniel Ortega par sa belle-fille, et qu'elles n'ont plus cours, ces plaintes-là, elles ont été retirées.
Elles ont été retirées, et elle a fait pression sur elle pour qu'elle retire ses plaintes, et sa fille est partie en exil, et d'ailleurs, aujourd'hui, sort un film où elle raconte ça, qui va être projeté à Mexico, où elle témoigne de ce qu'a été ce qu'ont été ces viols et ce qu'ont été ensuite les pressions pour qu'elle retire ses plaintes.
Gilles Bataillon, qu'est-ce qu'il reste de révolutionnaire, de sandiniste, de communiste chez Daniel Ortega qui avait en 79 renversé, alors c'était 10 ans après la mort de Che Guevara, il avait renversé la dictature de la famille Somoza. Qu'est-ce qu'il y a encore de révolutionnaire chez lui ?
Je dirais simplement rien. Il est devenu un tyran. Et il y avait une plaisanterie qui courait dans les milieux populaires, qui commençait à s'opposer au sandinisme, qui n'a pas été la révolution démocratique et ouverte qu'on a racontée, qui très vite est devenue, il y a eu une glaciation avec un parti État qui s'est imposé aux dépens de ses associés rivaux dans la lutte contre Somoza.
Vous avez longuement enquêté sur la guerre qui s'en est suivie, la guerre civile qui s'en est suivie.
Et donc les gens disaient, autrefois on avait un tyran, maintenant, on en a 9. C'était les 9 dirigeants du front. Et aujourd'hui, ils n'en ont plus qu'un et qui vise une dictature patrimonialiste et plus du tout un quelconque modèle communiste.
Qu'est-ce qu'il reste d'anti-impérialiste chez lui dans ses relations avec les États-Unis, dans sa relation au Fonds monétaire international qui ne manque pas d'intervenir très souvent en Amérique latine?
Il se plie à tous les desiderata du Fonds monétaire international. Il s'égosille dans un discours anti-impérialiste. Et il continue à vivre de l'argent qu'envoie toute une partie des gens qui sont partis en exil ou qui ont émigré pour des raisons économiques et souvent pour un mélange des deux aux États-Unis, puisque c'est là qu'il y a une très grosse communauté de Nicaraguayens en exil.
Mais disons le discours
en Espagne aussi, mais c'est avant tout aux États-Unis. Et disons les discours anti-impérialistes d'Ortega, c'est de la poudre aux yeux, pour dire les choses simplement.
Oui, parce que vous dites que si vous dites qu'il s'est plié à toutes les injonctions du FMI, voire qu'il en a peut-être fait un peu davantage, des négociations avaient commencé entre le gouvernement de Daniel Ortega et l'opposition. Où est-ce que ça en est ? C'est-à-dire qu'il y avait quand même une volonté à un moment de renouer le dialogue en 2018.
Alors Ortega est très... c'est un homme extrêmement habile. Et donc son jeu, c'est... Quand il sent que la pression extérieure est trop forte, il rouvre des négociations et en même temps, il ne cède sur rien de ce qui est capital. C'est-à-dire le fait qu'il ne puisse pas être à nouveau candidat, le fait que les institutions qui sont chargées de veiller à l'organisation des élections soient des organisations qui ne soient pas là pour organiser une fraude en sa faveur, et il ne veut pas non plus d'un jugement des gens qui sont impliqués dans des actes de crimes de lèse-humanité, comme on dit, contre les manifestants arrêtés ou tués à partir d'avril 2018. C'est les points clés pour qu'une négociation sérieuse soit engagée et il s'y refuse, il joue la montre, il gagne du temps, il élargit les prisonniers et il en remet à nouveau d'autres en prison. Donc il joue très habilement, il gagne du temps et son idée, c'est d'aller jusqu'à 2021 aux élections et là de se représenter à nouveau et au besoin de faire ce qu'il avait fait déjà, c'est-à-dire de susciter un candidat sancudo, comme on dit en espagnol, qui serait un candidat à sa main qui diviserait l'opposition.
Alors, que peut faire celle qu'on appelle toujours la communauté internationale, Gilles Bataillon ? On parle des États-Unis, c'est vrai qu'on a aussi, on critique aussi beaucoup l'interventionnisme américain en Amérique du Sud, et en l'occurrence, les relations entre le Nicaragua et les États-Unis n'ont pas toujours été mauvaises. L'organisation des États américains, on en a parlé ici dans les enjeux internationaux, a longtemps aussi été quand même dans la main de Washington. Alors, qui doit faire quoi pour le Nicaragua ?
Alors, il faut être réaliste et un tout petit peu sérieux. Il est évident que c'est des pressions internationales contre le Nicaragua, que Trump est un personnage douteux et désagréable, qu'il est à la tête de ce qui reste la plus grande puissance du monde, et que c'est par l'Organisation des États américains qu'on trouvera une solution à la question nicaraguayenne, mais aussi c'est la communauté européenne qui doit peser là-dessus.
Et qui pour l'instant s'interroge sur le bien fondé d'éventuelles sanctions et ce qu'elle pourrait en faire. Merci beaucoup en tout cas Gilles Bataillon d'avoir été notre invité ce matin et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Il y a en l'écrivain Jean Giono un démiurge qui aime à refaire autrement le monde. Prélude de Pan sur France Culture. Un étranger mystérieux, un orage qui gronde, des paysans ivres, et c'est soudain un déchaînement de violence, une transe collective qui s'empare de tout le village pour s'achever en orgie dionysiaque. Prélude de Pan, de Jean Giono, samedi noir, ce samedi à 21h et sur franceculture.fr. Vous avez manqué le meilleur sur France Culture ? Avec la session de rattrapage, recevez chaque samedi matin dans votre boîte email l'essentiel de la semaine écoulée. Idées, culture et savoir, architecture, histoire, sciences et cinéma, fiction, politique ou art plastique,
une sélection d'émissions et d'articles pour comprendre, apprendre et découvrir. Abonnez-vous gratuitement à la session de rattrapage sur le site franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture et tout de suite, nous retrouvons Guillaume Merner et les matins de France Culture en direct de la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Yeah. Bonjour Guillaume.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous. Et oui, nous sommes de retour à la ZAD, 2 ans après la décision de ne pas construire d'aéroport dans ce beau lieu, particulièrement envoûtant en hiver, avec cette brume qui nous entoure. Notre-Dame-des-Landes est en quelque sorte la ZAD majuscule, le mot ZAD étant devenu un nouveau nom de lieu parmi les mythologies contemporaines, aux côtés de l'open space, du mall, la galerie marchande, et de la piste cyclable. Et précisément, le propre d'un lieu mythique est d'évoquer plusieurs choses à la fois, depuis les nouvelles luttes jusqu'aux violences policières pour les uns, mais aussi pour les autres, une zone de non-droit, voire un refus de la propriété privée. Alors à mes yeux, la ZAD est surtout un lieu d'expérimentation. Il est à la France de demain ce que le kibboutz a été au projet sioniste. Le kibboutz, ces fermes collectives qui ont construit Israël. Et bien de la même façon, la France de demain est bien plus du côté de Notre-Dame-des-Landes que de l'aéroport qui était censé y être construit. Et c'est pourquoi nous avons souhaité revenir ici, faire d'une ZAD le visage de la France du futur. Voilà qui vous paraît peut-être paradoxal, surtout si vous n'êtes jamais allé dans une ZAD, et j'ai presque envie de vous dire, venez, venez dans ces nouveaux lieux, faites-vous une idée par vous-même. Ici s'invente un nouveau rapport à la nature, à la terre, à l'agriculture bien sûr, mais aussi un autre rapport au travail, un autre rapport à la production. Et c'est peut-être cela en fait qui est le plus passionnant ici, c'est peut-être pour cela que vous feriez bien de venir, y compris et surtout si vous n'avez pas l'âme zadiste. Car depuis des années, les années 1950, les principales innovations en matière de production, oui je dis bien de production, se font moins dans des casernes à l'ENA ou à HEC que dans une culture libertaire, artiste, parfois foutraque, de moins en moins normée. La chose est connue au moins depuis le Nouvel Âge du Capitalisme, l'ouvrage de Boltkanski et de Chiappello. Les ZAD inventent la France de demain, y compris la France productive. Il y a même une expression en anglais qui signifie « rebel sell », la rébellion fait vendre. Et c'est notamment cela que j'aimerais vous donner à entendre, même si évidemment mes camarades de la ZAD ne voient pas les choses ainsi, mais comme le disait le camarade Marx, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font.